Are you ready for the sound experience of a lifetime? Are you ready for crystal clarity in sonic bliss? Are you ready for CKUT? We're ready for you. 90.3 on your FM dial.
Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne. Je serai avec vous pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, en Alberta, la grogne monte parmi les professeurs et parents d'élèves francophones du primaire. Le projet pilote de la réforme M6, monté en secret.
C'est que le processus de création, d'élaboration de ce programme d'études a été fait largement en secret, avec des enseignants participants qui ont dû signer des ententes de non-divulgation. Nous savons pas vraiment le contenu des discussions qui a mené à l'élaboration de ce programme d'études spécifiquement pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui.
Une artiste d'origine sénégalaise parmi les finalistes du prestigieux et fort généreux prix Sobé, une bourse de 100 000 $ à la clé.
Comme artiste, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime approfondir ma carrière en essayant des nouvelles choses et comme enseignante, professeure aussi, je pense que j'apprends aussi beaucoup des artistes, des jeunes artistes.
Et la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été soulignée le 17 mai dernier. Une jeune transgenre de la région d'Halifax partage son expérience.
Il y a beaucoup de ces femmes-là qui m'ont connue avant, m'ont vu grandir dans la communauté et qui ont toujours été beaucoup engagées dans la communauté. Il n'y a pas une personne qui dit un commentaire. Il n'y a personne qui care. Je pense que ça, c'est la meilleure chose que je peux dire. Le monde me voit et me voyons comme Zoé. Et c'est juste comme ça que ça l'est.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, on se pose d'abord en Alberta, où la refonte d'un programme scolaire fait grand bruit. L'Alberta, où on va, dès cet automne, mettre à l'épreuve un nouveau projet pilote de nouveaux programmes scolaires en anglais, en mathématiques, en éducation physique et sexuelle. Mais ce projet pilote inscrit au curriculum scolaire semble déjà déplaire à de nombreux enseignants et parents qui s'opposent au nouveau programme surnommé M6, destiné aux élèves, il faut le dire, de la maternelle à la sixième année du primaire. On a même un peu manifesté publiquement son mécontentement dans quelques municipalités albertaines. Force est donc de constater que le programme rénové ne répond pas aux attentes des professeurs et parents. Le président de l'Association des enseignants et des enseignantes francophones de l'Alberta, Stéphane Kreiner, s'en est fait le porte-voix. Il nous explique pourquoi ce curriculum suscite autant de controverses dans le milieu.
Une des grandes raisons que le programme n'est pas satisfaisant aux enseignants, c'est que le processus de création, d'élaboration de ce programme d'études a été fait largement en secret, avec des enseignants participants qui ont dû signer des ententes de non-divulgation. Alors, nous savons pas vraiment le contenu des discussions qui a mené à l'élaboration de ce programme d'études spécifiquement pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui.
Et puis même si le ministère de l'Éducation avait justement organisé des rencontres avec des parents, des enseignants pour mieux adapter le nouveau curriculum scolaire pour l'automne, même avec toutes ces discussions-là, on n'arrive toujours pas à s'entendre.
Donc le contenu de ces discussions-là n'est pas encore public. Et il y a des révisions qui se font en ce moment par les enseignants pour voir exactement quels changements ont été actuellement implémentés depuis les propositions, les brouillons qui étaient là lancés au mois de mars 2020 jusqu'au produit final que nous sommes maintenant. On est en train de faire des comparaisons pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais le gouvernement pourrait simplement nous fournir cette information-là aussi, de voir spécifiquement quels changements ont été faits depuis pour quelles raisons les changements ont été faits depuis ces débauches-là. Ultimement, les enseignants continuent d'enseigner le programme scolaire de l'Alberta tel que prescrit dans le Teaching Profession Act, je crois que c'est l'Education Act, je ne sais plus lequel spécifiquement. Donc, ce sera un processus de loi. Les enseignants vont enseigner ce qu'ils doivent enseigner car ils sont les professionnels ultimement. Par rapport à s'ils sont d'accord ou pas avec ce programme-là, ça, c'est une autre question.
Par rapport au programme d'éducation physique, il y aurait un volet d'éducation sexuelle et de littératie financière. Ça va s'appliquer là, pour les élèves de la maternelle à la sixième année. Est-ce que c'est un petit peu trop jeune d'enseigner ces matières-là à des jeunes de maternelle et sixième année?
Donc, ce qui est arrivé ici, c'est qu'ils ont pris les programmes qui sont actuellement le programme d'éducation physique, le programme de santé et bien-être, et les ont amalgamés dans un gros programme qui sera maintenant l'éducation physique bien-être. Et dans ce programme d'études-là, il y aura maintenant des compétences en littératie financière et de l'éducation sexuelle. Donc, c'est pas comme on fait l'insérancement sexuel dans le gymnase maintenant, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que c'est ce qui est présentement dans le programme santé et dans le programme d'éducation physique sont amalgamés. La réalité, c'est que les enfants ont besoin d'apprendre plusieurs de ces concepts-là. Je vais donner l'exemple en littératie financière. On commence à parler des cartes de crédit en quatrième année. Par rapport à si c'est une bonne idée ou pas, c'est un peu difficile parce que quand on parle de crédit, c'est forcément des nombres, des concepts mathématiques qui pourraient dépasser un petit peu les enfants en quatrième année. On verra si ça fonctionne ou pas. Ce serait beaucoup plus facile de vous donner une rétroaction si on avait eu la chance de piloter ces programmes d'études-là dans les écoles. Spécifiquement les écoles francophones, mais nous n'avons pas piloté parce que nous n'étions pas d'accord avec le contenu en large des programmes.
Est-ce que vous avez eu des réactions des professeurs d'éducation physique?
J'ai reçu quelques mentions des profs d'éducation physique qui sont plutôt inquiets par rapport au changement. Présentement, ils ont un programme d'éducation physique, ils enseignent l'éducation physique dans le gymnase. Avec l'amalgamation des deux programmes d'études de santé et bien-être et d'éducation physique, leur position est un peu moins claire maintenant. Ce n'est pas complètement clair pour eux autres quels seront les changements. Est-ce qu'il y aura une composante en salle de classe spécifiquement? Ces détails-là ne sont pas encore assez clairs pour nos enseignants. Le plan de la ministre de l'Éducation, c'est d'implémenter des programmes d'études pour l'année scolaire 2022-2023, dans les niveaux qu'on a discutés. Elle a le pouvoir de changer cette décision-là, mais de ce que je sache, le plan, c'est d'enseigner ces programmes-là et ça semble aller à 100 000 à l'heure pour l'implémentation en septembre 2022.
Monsieur Stéphane Craner, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à la transition du nouveau curriculum scolaire?
Une des choses qui m'inquiète vraiment, Vincent, c'est par rapport aux ressources puis à la préparation des enseignants spécifiquement dans le francophone. Parce que, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun conseil scolaire francophone qui a piloté ce programme. Et pour bonne raison, le programme n'était pas adéquat tel qu'élaboré dans les débauches. Nous n'avons pas ces pilotages-là, on n'a pas ces expériences-là. La transition va être rendue difficile. Et présentement, il y a un manque de ressources disponibles aux enseignants en français qui m'inquiète énormément aussi. Donc, je suis vraiment inquiet par rapport à ce qui sera exigé de nos enseignants pour se préparer pour ce programme d'études ici. Que ce soit le manque de ressources, le manque de temps, le manque de préparation pour les élèves également. On parle d'un nouveau programme qui sera implémenté à trois niveaux. Et ça va être difficile de répondre aux besoins individuels des élèves lorsqu'on enseigne la matière qu'ils n'ont pilotée.
Merci beaucoup, Stéphane Craner, président de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones de l'Alberta.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Anna Binta Diallo est une artiste visuelle née à Dakar. Madame Diallo a grandi à Saint-Boniface, au Manitoba. Elle est aussi professeure adjointe à la Faculté des beaux-arts de l'Université du Manitoba. Mais elle se trouve surtout à être l'une des finalistes du prestigieux prix Sobe. Depuis 2002, le prix Sobe pour les arts a récompensé de nombreux artistes visuels canadiens œuvrant en art contemporain, des artistes qui ont moins de 40 ans. Les prix Sobe sont décernés chaque année. Ils soulignent la qualité du travail d'artistes de cinq régions du pays, soit de la côte ouest et du Yukon, des prairies du Nord, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique. Et ils sont internationalement reconnus, notamment parce qu'ils offrent l'une des plus généreuses bourses aux artistes. Anna Binta Diallo se réjouit d'être l'une des 25 finalistes de ce concours d'art contemporain, car elle court la chance de gagner une bourse de 100 000 $ en plus de voir ses œuvres exposées au Musée des beaux-arts du Canada. Quatre bourses de 25 000 $ seront aussi décernées et les autres finalistes se verront elles aussi, remettre une bourse de 10 000 $. Anna Binta Diallo explore plusieurs médiums et sa vision et sa sensibilité artistique ont de toute évidence touché les jurys des prix Sobe. Notre nouvelle collaboratrice, Aurélie Nana Forson, a le plaisir de s'entretenir avec Anna Binta, qui nous parle de son parcours et de son expérience en tant qu'artiste.
Félicitations, Anna Binta. Comment vous sentez-vous par rapport à cette nomination?
Merci beaucoup. Oui, je me sens très fière et comblée aussi, et heureuse d'être reconnue pour un prix si prestigieux et un prix qui est très généreux aussi.
Et surtout d'être à côté d'autres artistes que j'admire aussi beaucoup.
Quel a été le processus pour déposer ta candidature au prix SOBI?
Ben, c'est ça, chaque année, le prix SOBI invite à la communauté artistique de nominer un artiste. Alors, tu dois travailler avec un artiste doit travailler avec quelqu'un qui doit te supporter, soit un travailleur culturel dans une galerie ou un commissaire, et cette personne écrit une lettre de nomination, et l'artiste doit aussi envoyer un portfolio de ses œuvres récentes. Et puis, il y a un jury qui va évaluer tous les dossiers c'est un jury indépendant, et c'est eux autres qui déterminent la liste préliminaire et la liste des finalistes et aussi le lauréat du prix.
Comment arrives-tu à concilier ta carrière d'artiste avec celle de professeur?
Oh, ben, c'est une bonne question. Je pense que comme artiste, j'aime apprendre des nouvelles choses. J'aime approfondir ma carrière en essayant des nouvelles choses. Et comme enseignante, professeur aussi, je pense que j'apprends aussi beaucoup des jeunes artistes qui commencent leur carrière aussi. Et je pense que j'apprécie beaucoup cet échange. T'sais, moi, j'ai des connaissances que j'ai eues en travaillant dans les arts pendant longtemps. Donc, j'aime aussi passer mes expériences à eux. Et je pense qu'on est aussi encouragé de continuer nos recherches pendant qu'on enseigne aussi. Donc, je pense que c'est comme... il faut avoir un juste équilibre entre ta propre pratique et aussi essayer de partager avec les autres. Donc, c'est quand même un équilibre qu'il faut travailler aussi, mais je pense que c'est ça.
Est-ce que tu as un médium artistique de prédilection?
Ben moi, comme vous avez dit à l'introduction, je me considère une artiste comme interdisciplinaire, multidisciplinaire. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses. J'aime beaucoup utiliser la technologie dans mes œuvres. Comme quand je dis la technologie, ça veut dire peut-être que je vais utiliser des logiciels de design pour faire des illustrations et ensuite incorporer d'autres matériaux. Et je suis aussi intéressée au collage. Depuis longtemps, j'utilise beaucoup le collage. C'est pas vraiment un médium, mais c'est comme une technique que j'utilise soit dans la vidéo ou avec la photographie ou avec le découpage et même en installation et en sculpture.
Dans ton processus de création, peut-être, est-ce que c'est le collage que tu aimes le plus durant le processus, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres parties qui te donnent plus de contentement que les autres?
Je pense que dans mon processus de création, il y a toujours plusieurs étapes qui se suivent naturellement. Souvent, j'ai une idée et ensuite, je commence à ramasser des choses. Donc, je commence à ramasser des photos, des images. Je commence à collectionner une collection de choses qui va m'aider ensuite à passer à la prochaine étape, qui serait de voir comment est-ce que je peux mettre tous ces éléments trouvés ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Je pense que des fois, quand je fais ça, souvent j'ai un plan dans ma tête, mais à la fin, j'arrive à quelque chose qui était un peu différent de ce que j'avais en tête. Et j'aime beaucoup cet aspect aussi dans la création, c'est que des fois, on s'attend pas à ce qu'on va faire. Même si on a un plan. Et moi, je commence toujours de cette façon avec une collection de mots, d'images, d'idées. Et là, je pars avec ça et je suis mon intuition et je continue à voir qu'est-ce que ça va être quoi le produit final.
C'est vraiment un processus de création qui se développe sur l'inconnu. C'est vraiment l'inattendu. C'est très intéressant. Je pense aussi que ça peut être une des choses qui a peut-être séduit le jury. Qui sait?
Ah! Peut-être.
As-tu un conseil à donner pour les artistes inconnus qui souhaitent se lancer professionnellement? Parce qu'on sait dans notre communauté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes par rapport à l'art, par rapport à la création, mais qui n'ont pas nécessairement soit les connaissances ou bien soit la confiance en soi pour essayer de se faire découvrir.
Une des choses qui est très importante, c'est d'aller voir beaucoup d'art aussi, aller dans les galeries, aller visiter les galeries, aller visiter les centres d'artistes. Parler avec d'autres artistes, ça aide beaucoup, juste pour voir les différentes expériences, parce que tout le monde a des expériences différentes. Donc, je pense que c'est très important aussi de étudier l'art, alors prendre des cours, ou bien si tu décides de faire une carrière peut-être regarder à des cours plus approfondis. Mais aussi, je pense, une chose, ce serait juste de rester authentique au choix. Quand tu veux faire un projet d'art, je pense que c'est important de rester comme authentique à tes propres idées, comme pas te laisser être influencé des idées des autres, comme poursuivre la recherche qui t'intéresse et continuer à être curieux ou curieuse. Je pense que ça aide aussi à la persévérance et puis ça peut aider à comme développer une carrière artistique, c'est de rester authentique et curieux et persévérer.
Merci beaucoup. Ça aide toujours d'avoir les mots de quelqu'un qui a réussi à s'imposer sur le milieu. J'espère que cela va justement motiver nos auditeurs qui sont férus d'art et de création à peut-être finalement partager ce qu'ils sont en train de créer avec le monde. On a envie d'en voir plus.
C'est ça.
Franchement, merci beaucoup pour cette entrevue et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, pas de problème. On vous souhaite une bonne réussite et puis on espère que vous allez décrocher votre prix.
Merci beaucoup.
Mais bonne journée.
Souligné le 17 mai dernier la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, un événement qui a vu le jour en 2003 au Québec grâce à l'initiative de la Fondation Émergence. Le 17 mai est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays. Oui, nous avons pris du retard depuis le 17 mai, on l'avoue, mais on se disait que ce n'était pas une raison de la passer sous silence. Et on la souligne à notre manière grâce à notre journaliste Sébastien Beltran, posté à Halifax et qui a recueilli le témoignage de Zoé Como, une femme transgenre impliquée dans sa communauté et qui reconnaît avoir eu de la chance durant sa jeunesse, la chance d'avoir grandi dans une communauté tolérante et compréhensive. Zoé Como, femme transgenre, nous offre ici son témoignage.
Bonjour Zoé.
Bonjour, ça va bien?
Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir en ligne. C'est la première fois que nous discutons ensemble. Comment vas-tu?
Ça va pas mal bien. C'est un peu gris aujourd'hui, mais j'espère que le soleil va en ressortir.
J'espère qu'on en sortira quelque chose de positif. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est mettre en avant un petit peu le combat de la communauté. Donc, en préambule, je voulais dire que le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors, 32 ans après, on aurait pu imaginer que l'homosexualité et que la dysphorie de genre deviennent un non-sujet. Et pourtant, on en parle toujours. Alors, ma première question est la suivante. Comment le vis-tu au quotidien? Est-ce que ça t'arrive d'être confronté à des remarques, à des regards ou à de la violence de façon générale?
Ben, c'est intéressant. Quand moi, j'ai fait mon coming out, ça a été pas mal simple. Ouais, ma famille m'a accepté. Au lieu de travail où ce que je travaillais, j'étais la troisième personne d'être sortie comme étant une personne transgenre. Je travaille dans la communauté artistique où du monde de ma communauté, on est beaucoup bien accepté et célébré. C'est ce que je vois le plus, c'est du monde qui ont des questions et que dans l'intérêt d'être poli, ils les demandent pas, mais à la fin de la journée, il y a un genre de tension qui se fait créer dans ces points-là. Que je sais que tu as une question, je le vois dans ton visage, je l'entends dans ta voix. Parfois, en essayant de pas offusquer les gens, ça se passe quand même. Ça se passe d'une différente manière, comme une petite micro-agression. C'est un malaise. C'est la même manière que lorsque le monde ou ce que je connaissais avant, quand je lui donnais des câlins, maintenant, quand je les donne des câlins, ils sont beaucoup plus rigides. C'est comme qu'ils ont peur de me toucher parce qu'ils ne veulent pas faire de quoi de mal. Ils ne veulent pas me toucher de manière incorrecte. Le monde ne veut pas s'adresser à moi de manière incorrecte. Il y avait un gars, c'était étrange. Et je dis que c'était étrange à cause de c'était vraiment... C'était pas méchant. Je l'ai rencontré pour la première fois. J'étais dans une pièce de théâtre où j'étais très bien habillé, j'étais en belle robe, je m'ai présenté comme étant Zoé. Tout était simple, mais au cours de la soirée, il continuait de m'adresser avec les pronoms masculins. Et je l'ai dit à un certain point, je suis comme, tu sais que je suis une femme, right? Puis sa réponse était, oh, désolé, j'ai toujours besoin de m'habituer à ça. Je suis comme, t'habituer à quoi? Tu m'as rencontré il y a comme une demi-heure. Tu m'as juste connu comme Zoé. C'est pas comme que tu m'as connu pendant les 26 dernières années puisque j'allais par un autre nom. C'est des choses de même que je trouve juste malaisant. Le plus longtemps que je m'identifie comme étant Zoé et que je m'identifie comme femme, le plus que ça fait mal quand le monde utilise les mauvais pronoms. À cause, il y a un genre de sentiment que tu ressens que tu as fait tellement un gros parcours et là, avec un « il », tout ce cheminement-là que tu as fait, tout le travail personnel que tu as fait est juste parti d'un seul coup.
En effet, je m'identifie peut-être un peu à ces gens-là où on a peur de blesser ou en tout cas, on a peur de déranger. Et effectivement, je crois que tu as raison, ça crée peut-être un malaise. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'aborder le sujet. Enfin, si ça peut soulager de crever l'abcès, est-ce que le gouvernement en fait assez en matière de droit pour cette communauté? Est-ce que vous pouvez vivre pleinement ou est-ce qu'il y a quand même des discriminations qui vous empêchent, je ne sais pas, l'emploi?
Moi, il y a au-dessus d'un an que j'ai mis ma soumission pour avoir un changement de nom et le changement de marqueur de sexe sur mon certificat de naissance. Je viens tout juste de l'avoir. Ça a pris un an pour avoir ce changement-là. Et même juste pour avoir accès à des hormones, il y a tellement de différentes barrières qu'il faut sauter à travers. Et c'est même encore plus pire si tu veux avoir une chirurgie d'affirmation du genre. Tu as besoin d'une lettre d'un psychiatre, tu as besoin de deux lettres de médecins généraux, des gens qui attestent que tu as vécu comme le genre que tu décrives, que tu vives pendant plus qu'un an. En Nouvelle-Écosse et au Canada, la chirurgie est payée par les soins médicaux, mais ce qui n'est pas couvert, c'est genre la féminisation de la face. Et les hormones ne sont pas couvertes. Juste pour avoir des petites pilules pour te faire sentir correct et bon dans ton corps, ça coûte tellement cher, tellement difficile à avoir accès aux hormones et avoir accès à la chirurgie que je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail qui peut se faire là-dedans.
Donc moi, je suis un peu surpris par ce témoignage. Je m'attendais à ce que tu me dises qu'il y avait des problèmes avec la communauté. On pourrait penser que c'est plutôt agréable et encourageant.
Oui, c'est beaucoup plus agréable et encourageant que le monde y croit. Mais l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est même si tu es une femme transgenre, tu es une femme et il y a beaucoup plus de problèmes dans ces cas-là. Comme moi, je m'ai fait catcaller des commentaires sexuels faits envers moi. Ça n'a rien à faire avec mon identité de transgenre. Mais ça a beaucoup à faire avec le fait d'être une femme. Et il y a beaucoup d'agressions qui se font envers les hommes transgenres, spécialement quand ça vient aux salles de bain et tout ça, là. On se retrouve vraiment dans un temps exceptionnel où ce que être transgenre, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment de quoi d'inspirant et il y a tellement un gros support dans la communauté, le monde qui te vois comme que toi, tu te vois et c'est vraiment beau.
Alors toi, je sais que tu es très impliqué justement pour la cause des femmes. Tu fais partie de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qu'elles disent, les femmes? Quel est leur témoignage quand on parle justement de ces sujets? Comment elles le vivent, elles?
Moi, ce que je trouve le plus impressionnant et le plus hallucinant de travailler avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de ces femmes-là qui m'ont connu avant, m'ont vu grandir dans la communauté et qui ont toujours été beaucoup engagées dans la communauté, quand c'était avec le Conseil jeunesse, avec la FECAN. Il n'y a pas une personne qui dit un commentaire. Il n'y a personne qui care. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose que je peux dire. Le monde me voit et me voyons comme Zoé. Et c'est juste comme ça que ça l'est. C'est exceptionnel, parce que c'est des femmes quand même qui sont plus âgées.
du monde comme moi sont un peu nouveaux dans leur sphère de vie. Absolument. Mais ils ne me traitent aucunement différent que qui que ce soit d'autre.
Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les personnes justement qui se posent des questions, qui ont des doutes? Tu leur conseillerais quoi?
Vas-y à ton propre coup. C'est vraiment un choix personnel, quelque chose de très spécial que vous ressentez. Il n'y a rien de mal avec qui vous êtes et il n'y a rien de bizarre, de méchant. Si ça vous... Moi, ça m'a pris 26 ans. Pour certains, ça prend plus longtemps et pour certains, ça prend moins longtemps. Mais il n'y a jamais un bon ou un mauvais moment de faire son coming out. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne. Moi, mon cas est très unique. Je ne suis pas l'histoire des personnes transgenres en Nouvelle-Écosse. J'ai grandi d'une manière privilégiée. J'ai grandi dans une communauté acceptante. Je fais du travail dans une communauté très acceptante. Il y a de la difficulté et ça existe. Et il y a de l'homophobie et il y a de la transphobie. C'est juste, ça n'a pas été mon propre vécu et je suis vraiment content de ça, mais je suis aussi très reconnaissante qu'il y a toujours du travail à faire et qu'il y a toujours une communauté de gens qui sont fâchés pour aucune raison envers les gens homosexuels, transgenres. Il y a du travail à faire, mais je voulais juste m'assurer que tout le monde sache qu'il y a de l'espoir et que ce n'est pas toute la noirceur.
Merci. Merci Zoé pour ce message. Je rappelle que tu es directrice artistique du Théâtre des Assimilés et militante active pour le droit des femmes. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler pour d'autres sujets. En tout cas, tu sais que tu es la bienvenue à la radio.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Sébastien.
Merci Zoé.
Rappelons que le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau réforme le code criminel et décriminalise les actes homosexuels au Canada le 14 mai 1969. Depuis cette date, les droits des personnes homosexuelles et transsexuelles ont fait des progrès, du mariage pour tous à la modification du sexe à l'état civil, en passant par une meilleure protection des personnes vivant avec une dysphorie de genre. Aux yeux de plusieurs, le Canada fait d'ailleurs figure de pionnier pour les droits accordés à la communauté LGBTQ+. En Nouvelle-Écosse, les membres de la communauté bénéficient de conditions favorables pour leur épanouissement personnel. Zoé Como, cette femme transgenre qu'on écoutait, reconnaît que son parcours a été bien compris et accueilli par son entourage, mais tous n'ont pas cette chance. Et bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter, comme d'habitude, notre site web où vous pouvez lire et écouter surtout tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers tout le pays. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Et si vous êtes bilingue, ben ça tombe bien, on a des journalistes qui travaillent en français, en anglais et maintenant aussi en espagnol. On ne vous présente à cette émission qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine chez nous. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. Retrouvez-nous aussi sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI, et écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, de même que sur notre site Internet. On remercie nos journalistes Sébastien Beltran, Vincent Savard et Aurélie Nana-Forson, de même que notre coordonnateur national Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
enfin le retour des sourires. De tous les sourires. Le sourire timide, le franc, le fendu jusqu'aux oreilles, le poli, le crispé, le complice et le doux. Parce que le port du masque n'est plus obligatoire au Québec, sauf dans les transports collectifs, dans les établissements de santé et durant les jours suivant votre isolement si vous avez eu la COVID-19. Si vous en sentez le besoin, portez-le sans hésiter. Et faites-le avec le sourire. Un message du gouvernement du Québec.
Hello, my name is Alia. I'm at CKOT in Montreal. 90.3 FM. Keep on rocking in the free world.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, chant, conte et francophonie, la chorale de l'Acadie est en pleine campagne de recrutement à la veille de son 50e anniversaire.
N'importe qui aime chanter. Si ça tente, si t'aimes chanter, viens essayer, viens voir le monde, puis voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis c'est ça, le plaisir de chanter en groupe, là, on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. En autant qu'on a une voix juste, là.
Le conteur, chanteur, acteur, musicien, cinéaste et scénariste Fred Pellerin lance sa nouvelle tournée de spectacle et il le rôde lors d'une avant-première surprise à Fermont sur la Côte-Nord au Québec.
J'aurais pas pu te dire avant le spectacle si vous étiez les chanceux de la Côte-Nord parce que je savais pas comment ça allait se passer, si j'allais bien le jouer, bien le raconter. On est un peu les chanceux, et vous et moi ce soir, de découvrir cette histoire-là parce que je travaille en impro, fait que tu sais, à moitié je la découvre en même temps que je vous la raconte. En tout cas, c'est un moment magique.
Et on prend une pause avec notre journaliste Hélène Lequitte en Alberta, avec qui on discute à bâton rompu du paysage politique francophone de cette province de l'Ouest canadien.
C'est une francophonie beaucoup plus métissée qu'il y a 100 ans, justement, où c'était des francophones qui arrivaient, qui exploitaient des terres, qui avaient des fermes. Là, on a une francophonie, oui, qui vient d'Europe, du Québec, d'Afrique aussi beaucoup. C'est de comprendre le visage de cette nouvelle francophonie et de l'intégrer dans les enjeux.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On fait d'abord un petit croche vers la ville minière de Fermont au Québec. Fermont qui, selon le recensement de 2016, comptait moins de 2400 résidents permanents. Elle n'est pas à la porte, à quelques 17 heures de route de la ville de Québec, 20 heures de Montréal. Fermont qui avait la chance, même le privilège, de recevoir de conteur Fred Pellerin. Monsieur Pellerin qui réservait une surprise aux Fermontois, qui est arrivé sur scène en rodant son nouveau spectacle et conte intitulé « La descente aux affaires ». Un spectacle qui fera partie d'ailleurs de sa prochaine tournée de 4 ans, qu'il a lancé ce printemps et qui reprendra cet automne. Le spectacle qui devait être présenté était son précédent conte, en fait, un village en 3D, D-E accent aigu S. À la sortie de son spectacle, Fred Pellerin a expliqué que la décision de tester son plus récent récit a été prise seulement quelques jours avant sa visite dans cette ville minière et nordique. La dernière visite de Fred Pellerin à Fermont datait d'il y a environ 8 ans. Celle-ci avait été décalée de 2 ans en raison de la pandémie. Notre journaliste Elisabeth Séguin a eu le plaisir, la chance de rencontrer Fred Pellerin.
Fred Pellerin, salut!
Salut!
Comment ça va?
Ah, ça va bien, c'était une belle soirée. En fait, je me suis joué un tour un peu à soir, puis j'ai joué un tour au public aussi. Puis j'ai plongé dans ce qui va être le prochain spectacle, en fait. J'ai osé roder mon spectacle que j'avais pas fait. Fait que ça devient un peu le soir 1 d'une tournée flambant neuve. Je suis content, ça a marché. Le public a super bien reçu ça. Puis je leur ai dit qu'à la fin du spectacle que c'était neuf. Puis, fait que voilà.
Oui, c'était comme une surprise parce que depuis le tout début, en fait, depuis que ça a été annoncé avant 2020, c'était un village en 3D qui était annoncé. Même là, dans nos publicités à la radio, ça tournait comme étant un village en 3D. Ouais. C'est complètement autre chose qui a été présenté, si je comprends bien, avec des personnages qui reviennent, mais quand même, c'est le même univers, mais tout un nouveau spectacle. Comment c'était, là, sur scène, de présenter ça ici à Fermont, devant le public ici?
Bien, c'était le fun parce que, tu sais, le village en 3D, il était annoncé, mais cette tournée-là, normalement, était supposée être finie il y a longtemps. La COVID a fait qu'on a fait des reports. Mais tu sais, j'avais déjà fait un grand extrait de Village en 3D avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui était diffusé sur Radio-Canada. Ça a été vu par 1 million de personnes. Fait que tu sais, je commençais à trouver que le Village en 3D avait eu son temps. Puis ben moi, de mon côté, je commençais à écrire le prochain spectacle parce que normalement, à l'automne prochain, moi, je prends la route avec un nouveau spectacle. Puis finalement, j'ai eu plus de temps que prévu pour l'écrire. Puis pendant que je faisais ma cabane à sucre cette année, j'écrivais. Puis j'arrivais avec ce que je pense de la structure d'un spectacle. Fait que tu sais, en même temps, pour moi, il y avait quand même un stress d'arriver dans des histoires neuves parce que je sors d'un spectacle que j'ai fait 350 fois. Fait que je rentre dans un spectacle que j'ai fait 0 fois. Mais en même temps, il y a cette affaire-là de... Je trouve que c'est une belle salle pour essayer ça. On était quoi, 250 personnes peut-être? Fait que, tu sais, on n'était pas devant un mille, là, un paquebot à déplacer. Ça fait des retours rapides, ça. Quand c'est des petits groupes, les réactions sont vives, ça va vite, ça va... Puis, fait que pour moi, je trouvais que l'occasion était belle de faire ça.
Et quand même, à Fermont, on est loin. Tu l'as dit durant le spectacle, la dernière fois que tu es venu, c'était il y a 8 ans de ça, donc ça fait quand même longtemps. Comment se passe ton retour ici à Fermont? Comment est-ce que tu le vis?
Bien, j'étais content. Puis comme je disais, étrangement, Nathalie, qui est l'organisatrice du spectacle, quand on était embarqué dans son auto, elle dit, c'était quoi mon rappel de Facebook, je sais pas quoi, hier? C'était une photo de nous, il y a 8 ans pile. Fait que d'habitude, normalement, on refait les villes qu'on visite, on les refait aux 4 ans à peu près, parce que nos tournées durent ça, 4 ans. Mais c'est ça, fait que là, on doit avoir sauté un tour, je sais pas. J'espère. Puis, tu sais, je l'ai pitché de même en l'air, mais l'image, elle serait le fun, le symbole serait le fun. J'aimerais bien que, comme on a fait le spectacle 1 ici, qu'on puisse, dans 4 ans, revenir avec le spectacle 342 pour peut-être venir la fermer, cette tournée-là, chez vous.
Pour faire la clôture à Fermont, et quand même, on est éloigné, on est sur la Côte-Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu les chanceux là, de la Côte-Nord d'avoir pu vivre ce moment-là du premier spectacle de cette nouvelle tournée, en fait, que tu es en train de lancer? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire le titre de ce spectacle-là?
Le spectacle s'appelle « La descente aux affaires », puis c'est sur Toussaint-Brodeur qu'on s'arrête. Tu le disais tantôt, on revient toujours avec le même village, avec les mêmes personnages. Cette fois-ci, on prend Toussaint-Brodeur, le gars du magasin général, comme vedette du conte. Puis c'est lui qu'on suit dans sa quête effrénée du profit, de l'argent et de tout, puis qu'on se rend bien compte qu'il réussit plein d'affaires dans sa vie, mais qu'il réussit peut-être pas nécessairement sa vie. Fait qu'on le voit jusqu'à la fin, compter son argent, puis un jour se plaindre parce qu'il y a des secondes qui manquent pour faire ce qu'il aurait voulu faire réellement. Fait que c'est un peu ça que ça raconte. Puis après, ben c'est ça. Fait qu'on reste dans l'univers du village, dans cet univers-là qu'on connaît, qu'on côtoie, puis... j'aurais pas pu te dire avant le spectacle si vous étiez les chanceux de la Côte-Nord parce que je savais pas comment ça allait se passer, si j'allais bien le jouer, bien le raconter. Mais finalement, je pense qu'on a été un peu les chanceux, et vous et moi, ce soir, de découvrir cette histoire-là parce que je travaille en impro. Fait que, tu sais, à moitié, je la découvre en même temps que je vous la raconte. En tout cas, c'était un moment magique.
Effectivement, je pense que les gens l'ont senti aussi. À 2 reprises, les gens se sont levés dans la salle à la fin là, pour applaudir, ouais, et encourager et tout ça. J'imagine que toi aussi, t'es content du succès, en fait, qu'a eu ce nouveau conte-là pour toi.
Oui, puis tu sais, je le sentais. Les gens étaient là, la réaction était vive, était rapide. Les gens ont ri, les gens ont été touchés. Parce que j'essaye de... Tu sais, j'ai une image de gars qui fait rire quand je raconte, mais j'essaye aussi d'amener quelque part dans une réflexion, dans des questions, dans des doutes, Puis ça aussi, je pense... C'est à travailler, j'ai des affaires à peaufiner, mais je pense que le spectacle est appelé à aller dans ces zones-là aussi, qui sont un peu plus tendres, un peu plus dans la réflexion.
Et est-ce que ça veut dire que dans 4 ans, on aura probablement le plaisir de te revoir ici à Fermont?
Ben, on devrait tout de suite mettre une pétition, je sais pas où, au dépanneur, pour que Nathalie me réinvite dans 4 ans. Ce serait avec plaisir que je reviendrai.
Excellent. Bien, on vous souhaite un beau séjour ici à toi et ta gang qui avait fait tout le chemin jusqu'à Fermont, et un bon retour également. J'imagine que là, vous avez d'autres dates là, qui s'en viennent de tourner tout ça pour la suite de cette nouvelle facette de ce spectacle-là.
Oui, là, je pars en Suisse, puis après ça, je reviens. Après, je pars à Nouveau-Brunswick. J'ai, je pense, 6 ou 7 dates à Nouveau-Brunswick. Puis après ça, je reviens. Puis après ça, je fais mon été. Cet été, l'été, je prends jamais de spectacle parce que c'est beaucoup des festivals extérieurs. Puis comme les contes, ça demande quand même une écoute particulière, mais c'est pas l'idéal pour dehors. Fait que ce que j'ai fait cet été, c'est que je me suis pris un contrat pour écrire un nouveau film. Fait que je vais faire ça pendant l'été. Je vais écrire un nouveau scénario. Puis ce spectacle-là va prendre la route officiellement en septembre. Ça veut dire qu'à partir de septembre, on est décollé en fou pour faire des dates sur les années qui viennent.
Et nous, on va avoir eu le plaisir de le voir un peu en avant-première, là, carrément, là, pour l'avoir vécu avec toi ici à Fermont. Ouais. Fred Pellerin, bonne route, bon vol, bon tout ce qui s'en vient avec toi et tous tes projets. Et au plaisir de se reparler peut-être dans 4 ans.
Mais ça sera avec grand plaisir. Merci à toi.
Après, juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, mille petits riens semés au vent d'avant, sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Ce vide, cette chaise qui est restée, que je côtoie, une chaise libre, silencieuse, immobile, elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence, elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie, la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. On dirait que tu apparais.
Alors, Fred Pellerin est souvent calme comme ça sur ses disques déjà nombreux. Ici, le titre qu'on a entendu, « La vie qui suit la vie », était chanté avec Joran. La tournée de Fred Pellerin va le conduire à se produire un peu partout au Canada. Il va prendre la scène ce printemps dans les Maritimes. Et dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'en 2023, il se produira dans une quinzaine de villes du Québec. Le cinéaste Francis Leclerc s'est inspiré d'ailleurs de l'univers de M. Pellerin pour réaliser le film « L'arracheuse de temps », sortie en 2021 et qui prend maintenant la route des DVD et des diffuseurs en ligne.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'ensemble vocal Les Voix de l'Acadie recrute de nouveaux choristes à l'aube de son 50e anniversaire. D'autant que la chorale se vante d'être un groupe accueillant, agréable et prévenant. Alors, inauguré en 1973, Les Voix de l'Acadie s'est donné pour mission de promouvoir la chanson francophone. Ses concerts ressemblent, disent-ils, plus à des spectacles qu'à un concert. Depuis que le groupe de chanteurs a introduit des éléments de chorégraphie et de mise en scène dans ses spectacles, la chorale a déjà produit 2 CD, et tourne dès qu'elle le peut dans les provinces maritimes. Monique Pelletier, choriste au sein de ce chœur francophone, insiste sur le fait que Les Voix de l'Acadie a su mettre son répertoire au goût du jour. L'ensemble vocal s'est doté d'un répertoire moderne et d'un style musical varié allant de la pop au jazz, en passant par le chant classique. Sébastien Beltran, qui est en poste à Halifax, en Nouvelle-Écosse, rencontre Monique Pelletier, choriste et ancienne présidente de l'ensemble vocal Les Voix de l'Acadie, qui nous parle du groupe.
C'est un chœur francophone mix. On fait la promotion de la chanson française et on fait de la chanson contemporaine. Alors, ça n'a rien à voir avec les chorales d'église. Et c'est ça, on fait des chansons de tout genre en français. On fait de la balade, on fait du rythmé, on fait du jazz. On a fait, et cette année, on a une chanson dans notre répertoire de Zaz, chanson récente, de Blue Jean Bleu. On va faire une chanson de Jerry Boulet là, qui a été refaite, là, toujours vivant, là, pour bien montrer qu'on est encore là. Et là, c'est ça, on profite que là, on va participer au spectacle du 30e anniversaire du CCGH, du Conseil communautaire, dont on fait partie, nous aussi, depuis 30 ans. pour dire au monde, ben, hey, on est là, là. On est encore là, on est présent. Et puis, comme on n'a pas pu faire de recrutement dans les dernières années à cause de la pandémie, ben, c'est là qu'on en profite de dire, ben, venez joindre la gang. C'est une bonne gang. C'est vraiment un plaisir de participer à cet ensemble-là.
Mm-hmm. Moi, je suis allé voir sur Internet ce que vous faisiez et j'ai été agréablement surpris de voir l'ambiance et la ferveur qui y règne. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes, c'est vrai, mais l'harmonie est tellement plaisante qu'on se sent emporté par tout ce que vous faites.
Oui. Et nos concerts, nos spectacles, c'est plus spectacle-concert parce qu'on introduit, vu qu'on chante sans cahier, on introduit de la chorégraphie, des mouvements, de la mise en scène. On a aussi produit deux CD, un CD de Noël puis un autre CD à l'occasion du 40e. Puis on a fait des échanges avec d'autres chorales. On est allé en tournée dans les Maritimes. Et il faudrait que je te parle aussi de la grande traversée qu'on a faite en 2004, qui, à l'occasion du Congrès mondial acadien qui avait lieu ici à Halifax, et qui a été commandé à un artiste acadien bien connu, Calix Duguay, qui racontait cette œuvre-là, racontait l'histoire du peuple acadien. Alors, c'était il appelait ça un poème chantant, et de 50 minutes sans arrêt, là, et qu'on a fait, et après qu'on a présenté à l'île Madame, à Chétiquan, à Chipagan. Alors, voilà, on fait plein d'affaires, on brosse plein d'affaires.
Effectivement, tu viens de le dire, vos activités sont variées, tout comme votre répertoire, et c'est ce qui crée l'attractivité de la chorale. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que pour poursuivre vos activités, vous avez besoin de nouveaux chanteurs, mais dites-moi qui peut postuler et quel talent faut-il avoir pour se joindre à vous?
N'importe qui aime chanter. Et en autant qu'ils ont une voix juste, là, puis des fois, si on ne sait pas trop, bien, gars, on vient, on s'asseye et qu'on se dit, gars, si ça tente, si tu aimes chanter, viens essayer, viens voir le monde et puis voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis c'est le temps, c'est gratuit, ça coûte rien. Fait que...
Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui veut vous rejoindre, mais qui, comme moi, a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, est-ce qu'il faut une voix particulière pour se lancer? Avez-vous des besoins précis?
Non, ça peut être... Regarde, t'as pas besoin d'être soliste. Des solistes, on en a. Puis c'est ça, le plaisir de chanter en groupe, là, on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. Fait que, en autant qu'on a une voix juste, là, puis on n'a pas besoin de lire la musique. Il y a des choristes qui savent lire la musique, il y en a d'autres, non. C'est pas nécessaire. Il y a une de nos choristes, elle apprend tout de suite ses chansons par cœur, elle. Elle regarde quasiment pas ses partitions. Mais il y en a d'autres, il y en a une autre qui, elle a un poste bilingue, puis pour garder son français, ben elle aime de venir chanter. C'est sa façon, elle, de garder son français, etc. Fait que non, on ne cherche pas de profil particulier, non.
Bye bye nuage, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir,
une pluie toute fraîche à nettoyer, deux tout petits cœurs à réchauffer, des gens sur plage à colorer, refoncé ou rouge brûlé.
Lorsqu'on fait partie de la chorale, il faut assister à quelques répétitions et apprendre quelques chansons. Donc, est-ce que c'est difficile ou avez-vous des astuces pour faciliter le travail?
C'est ça. Non, c'est pas contraignant. Ça demande pas de travail particulier à toutes les semaines. On a, comme je disais, Daniel, notre chef de chœur, il nous met des outils, les MP3, sur le site web de la chorale rapidement. Bon, on peut les écouter. Ça l'aide si on les écoute une fois de temps en temps, tu sais, mais... Puis on pratique à toutes les semaines. On respecte les congés fériés de l'école. Quand il y a des congés fériés, l'école est fermée, on n'a pas de pratique. Des fois, on va avoir une pratique supplémentaire, une intensive les fins de semaine, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon bout de temps, là, mais non. Puis c'est sûr qu'il y a un petit effort à faire pour apprendre nos chansons, mais à un moment donné, mais à force de les pratiquer, là, ça rentre très bien. Et en musique, ça s'en prend mieux.
Mm-hmm. En effet, apprendre une chanson, c'est bien plus facile qu'une poésie. Alors, on peut se rendre sur Internet pour avoir un aperçu de votre travail, mais on peut aussi vous découvrir, et vous en parliez tout à l'heure, le 7 mai prochain à l'occasion du 30e anniversaire du Conseil communautaire du Grand Havre. Alors, expliquez-nous ce que vous allez nous présenter pendant cet événement.
On présente deux chansons toutes seules. Une qu'on a faite un vidéo de promotion avec Welcome Soleil et une autre chanson qui est une chanson qui a été réarrangée Toujours vivant, que je pense qui est de mise, là. Et on accompagne aussi quatre autres chansons. Il y a la chanson finale qui va être avec tous les artistes présents et trois autres qu'on accompagne les chanteurs, là. Et il y en a une, entre autres, que c'est une choriste de notre chorale, là, Sonia, qui va faire saisir le jour, que je ne sais pas si c'est ceux qui ont regardé la finale de Star Academy, là. C'était la chanson finale de Star Academy, c'est-à-dire le jour avec Laura Fabian. Et je veux rajouter aussi que des fois, les gens nous disent « Oui, mais on n'a pas d'auto pour se rendre là, gars. » Il y a du monde qui vient de Bedford, de Halifax, de Sackville. On peut vous trouver vous pouvez faire du covoiturage. Il y en a plein qui font ça.
Mais parfait. En tout cas, l'appel est lancé. C'est entendu. Merci d'avoir consacré quelques minutes avec nous.
Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
Bon, on sait que vous n'êtes pas à la porte et que si vous voulez postuler, vous allez faire pas mal de route. Et vous qui êtes ici à Point de vue en train de nous écouter d'un bout à l'autre du pays, mais qui sait, cette histoire va peut-être vous inspirer.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI.
On poursuit notre route dans le désordre et on s'arrête un moment en Alberta, prendre des nouvelles de notre journaliste Len Lekit, qui a passé plus d'un an avec nous et qui va retrouver sous peu de nouveaux horizons professionnels. Len Lekit vit depuis plus de 10 ans en Alberta. Elle a aussi effectué quelques arrêts plus à l'est et à l'ouest du pays. Elle est aujourd'hui bien ancrée dans la communauté albertaine et on a voulu profiter de son expérience, de son ancienneté, de sa lecture des enjeux qui marquent l'actualité de cette province. On a voulu en fait qu'elle nous en apprenne plus aussi sur la communauté francophone de cette province albertaine. Française d'origine, Hélène contribue, comme d'autres, à transformer peu à peu le visage de la francophonie de l'Ouest. Elle nous parle des franco-albertains, de ce qu'elle voit et entend depuis plus de 10 ans dans cette province et des défis que l'Alberta doit, selon elle, relever.
Il y a des petites perles rares qu'on ne soupçonne pas justement dans des régions comme ça éloignées. Puis c'est en lien avec, les communautés francophones, mais aussi avec l'histoire du Grand Ouest canadien, où les histoires des uns et des autres se recoupent en fait. Il y a plus de 85 000 francophones en Alberta, beaucoup plus que ça au niveau justement des personnes qui sont bilingues, et le bilinguisme fait partie intégrante de la culture albertaine pour ces francophones-là. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux aussi de la relève francophone, où il y a une francophonie qui change, qui a un visage qui change. Il y a l'aspect démographique, mais il y a l'aspect aussi, on va dire, c'est une francophonie beaucoup plus métissée qu'il y a 100 ans, justement, où c'était des francophones qui arrivaient, qui exploitaient des terres, qui avaient des fermes, les fameux franco-albertains. Là, on a une francophonie, qui vient d'Europe, du Québec, d'Afrique aussi beaucoup. Et ça, c'est un enjeu, c'est de comprendre le visage de cette nouvelle francophonie et de l'intégrer dans les enjeux. Bien sûr, on a beaucoup parlé du campus Saint-Jean, le problème de financement chronique de cette institution-là face à un gouvernement qui n'est pas, enclin à aimer la francophonie. Mais bon, voilà, en Alberta, c'est un gouvernement conservateur, donc c'est un gouvernement qui, de façon générale, n'est pas très enclin justement pour beaucoup de choses, pas que pour la francophonie, notamment au niveau de l'éducation supérieure, parce qu'il y a eu des réductions de budget qui n'a pas touché que le campus Saint-Jean, mais toutes les universités à part entière, McEwan, l'Université de l'Alberta. Un gouvernement conservateur qui a du mal à avoir une vision sur le long terme, on va dire, sur l'avenir économique de cette province. Certaines personnes voient l'Alberta comme une pâle copie du Texas. On a beaucoup mis l'emphase sur le pétrole, mais ça aurait pu aussi être une sorte de Silicon Valley albertaine, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, justement. Il y a un problème de vision. On n'a pas suffisamment diversifié les revenus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des personnes qui ont des niveaux d'éducation très, très, très élevés. Et il y a beaucoup de centres de recherche où il y a des sujets de recherche très pointus, comme notamment des thérapies sur le cancer. C'est à l'Université de l'Alberta
l'Alberta, là, en ce moment, on est en train de faire des essais cliniques, par exemple, sur une pilule révolutionnaire qui pourrait complètement enlever les tumeurs cancéreuses. Vous avez aussi des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est maladie d'Alzheimer à l'Université de Calgary, où vous avez même un centre de recherche à Lethbridge sur le fonctionnement du cerveau. On a des gens qui sont extrêmement pointus en recherche fondamentale, et ça, on n'en parle pas suffisamment, justement. Donc, c'est, on va dire, l'Alberta, c'est une terre de contraste à bien des égards, c'est-à-dire que historiquement, c'était aussi un sol riche en tout ce qui est paléontologie, c'était la terre des dinosaures, mais c'est aussi un contraste en termes d'économie et de vision entre le potentiel, puis des décisions politiques qui sont prises, qui ne sont pas vraiment en lien avec la réalité de terrain sur ce qui pourrait être, en fait, tout simplement. Là encore, c'est une question de vision. La transition énergétique, l'Alberta, elle est en retard. Parce qu'on mise toujours sur le pétrole. On parle d'hydrogène, qui est une... Comment dire, c'est intéressant, l'hydrogène, mais quand vous voyez aussi en ce moment que du côté de Gracie Mountain, il y a des projets d'exploitation miniers sur les flancs des rocheuses. À un moment donné, on voulait décapiter même une partie de la montagne rocheuse justement pour l'exploitation de charbon. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un gouvernement qui est peu respectueux, on va dire, des règles. Donc, il y a beaucoup de travail à faire parce que malheureusement, il y a des personnes qui dirigent mais qui ne comprennent pas le potentiel. Donc après, ça va être quoi l'alternative s'il n'y a plus le pétrole, parce qu'on va finir par y arriver. Donc oui, il y a l'hydrogène. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui va remplacer? Je pense que malheureusement, on n'en est pas rendu là. Et cette absence de vision, malheureusement, ça touche aussi beaucoup de domaines, hein. Même les services sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont sans abri, il y a beaucoup de problèmes de drogue, d'addiction à la drogue. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas suffisamment dans certains services sociaux des appartements ou des résidences sociales pour les sans-abri. C'est un tout, c'est un manque de vision sur le long terme, on voit plutôt toujours court terme. Donc là, on a un gouvernement qui est, on va dire, empressé de donner toujours des bonnes nouvelles dans un souhait, une motivation tout simplement pour être réélu. Mais est-ce qu'il y a une vraie compréhension du potentiel de cette province? Je n'en suis pas certaine. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'il y avait beaucoup de personnes du secteur médical avec la COVID. Ils ont beaucoup souffert parce qu'il y a des coupes budgétaires au niveau de la santé en Alberta. Il y a des professionnels de la santé qui sont partis. Vous avez aussi des étudiants qui sont partis parce que les valeurs de ce gouvernement-là sur l'environnement, ça ne correspondait pas à leurs valeurs. C'est la génération, c'est la relève. On parle de réchauffement climatique. Et puis aussi au niveau de l'éducation, certains ne voyaient pas du tout leur avenir en Alberta parce que des fois, il n'y avait pas une continuité sur les programmes, que ce soit au niveau en doctorat, par exemple, ou en maîtrise, où d'autres universités dans d'autres provinces pouvaient proposer ces programmes-là, ce qui n'était pas non plus le cas en Alberta. Donc, pour différentes raisons, il y a un peu une sorte... peut-être pas de fuite des cerveaux parce que c'est très difficile à quantifier, mais ça m'est arrivé de parler avec des étudiants qui sont partis parce que ils ne voyaient pas leur avenir ici.
Merci Hélène Lequitte d'avoir passé près d'un an avec nous. Bonne route et à bientôt peut-être. Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. La demi-heure passe très vite. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par nos journalistes postés à travers le Canada, en français et en anglais. Rendez-vous sur canada-info.ca. Canada-info.ca, vous le savez, on est aussi connectés sur Twitter. Vous nous retrouvez @CanadaLJI. Canada LJI. On remercie nos journalistes aujourd'hui, Elisabeth Seguin, Sébastien Beltran et Hélène Lequitte. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard et aux artistes qui nous offrent leur musique. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Listening to CK.